Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Bonjour à tous, je suis Alice Hachet, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Marotte, le directeur général de la marque Innocent, le leader européen du smoothie. Salut Nicolas.
Bonjour.
Je suis absolument ravie de t'accueillir dans L'Empreinte et en plus on a déjà commencé à échanger tous les deux en off. T'as plein de trucs à me raconter. On commence par quoi ?
Parce qu'il te fait plaisir. Il faut toujours se faire plaisir.
Ce qui me fait plaisir, écoute, tu m'avais raconté l'histoire des fondateurs. Comment est-ce qu'ils ont eu l'idée ? C'était assez précurseur, c'était en 2008, c'est ça, non ?
Alors, c'est en 2008, c'est-à-dire que l'histoire est assez simple. C'est trois jeunes garçons brillants qui ont commencé de belles études en université, qui sont rentrés dans des cabinets de conseil et qui s'y ennuyaient farouchement. Comme de bons jeunes Anglais, leur journée se termine assez tôt, ils vont au pub, ils se bourrent la gueule, ils se couchent tôt, ils boivent beaucoup de bière, ils mangent mal et la journée recommence. Et ils se disent assez rapidement, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose pour nos vies, pour qu'elles se passent mieux. On doit trouver des solutions assez simples. Ils partent en vacances, ils vont faire un peu de ski. Et là, ils vont voir la lumière, ils vont avoir toute une série d'idées. La baignoire qui garde l'eau chaude grâce à une résistance électrique, mais forcément, l'eau et l'électricité, ça ne va pas très bien ensemble. Et puis, comme ils observent beaucoup de choses, ils voient arriver des États-Unis un premier smoothie, pas très bon d'ailleurs, qui est un condensé de bonnes choses. Et ils se disent, là, il y a un truc énorme. Ça va faciliter nos vies, ça va nous permettre de boire tout ce qu'on n'a pas pris dans la journée. On va faire le meilleur possible et l'histoire a commencé.
C'est intéressant ce que tu me dis là, peut-être pour un peu différencier le jus du smoothie. Un smoothie, c'est les fruits qui sont pressés. Enfin, quelle est la différence ? C'est toi qui vas m'expliquer.
Alors, un smoothie innocent, c'est moitié de jus de fruits et moitié de fruits intégralement pressés. Donc, tu mets la pulpe, tu mets l'ensemble de ce que tu peux presser et qui est consommable dans ton mixeur.
Parce que j'imagine que la peau de banane, elle n'est pas trop...
La peau de banane, on va la laisser de côté, cette fois-ci exceptionnellement. Et puis, on va composer un produit merveilleux qui est plein de nutriments. Et on va retrouver toutes les vitamines, toutes les fibres, beaucoup plus que dans un jus de fruits classique.
Oui, c'est ça. J'allais te dire, parce que le jus de fruits, même, moi j'en parlais avec mon médecin récemment, il m'expliquait que le jus de fruits, alors c'est pas catastrophique par rapport à des sodas, mais c'est quand même pas très bon. Ça n'a pas beaucoup de nutriments, finalement, on perd un peu l'intérêt du fruit.
On retrouve, en tout cas, avec la technologie qu'on utilise, on retrouve toutes les vitamines et tous les minéraux qu'il y a dans le fruit, même dans le jus de fruits. Simplement, dans le smoothie, qui est plus riche, on va également retrouver les fibres. Et on sait que les Français manquent structurellement de fibres, puisqu'un adulte doit en consommer 25 grammes en moyenne par jour et qu'on est plutôt à 15 ou à 16 grammes. Donc tout ce qui peut apporter de la fibre, c'est intéressant. Et en plus, le smoothie, de par sa composition, est un merveilleux reconstituant. Les sportifs de haut niveau, des grandes équipes nationales en France, sans qu'on les sponsorise, consomment régulièrement nos produits.
Bon, après, il ne faut pas non plus en abuser trop, j'imagine. Il y a quand même faut boire, je ne sais pas, quelle quantité à peu près.
Nous, ce qu'on recommande, c'est de consommer entre 150 et 250 millilitres par jour.
Non, mais c'est
pas
hyper
davantage.
Important, voilà, c'est
pas
ça.
Davantage.
C'est bien de le rappeler.
C'est pas une bouteille d'eau, c'est pas...
Ça ne remplace pas, voilà, c'est en plus, et c'est bon, mais il ne faut pas en abuser comme tout.
C'est une bombe d'énergie, c'est sucré.
Ouais.
Les sucres qu'il y a dedans, c'est les sucres naturels des fruits, puisqu'on n'en ajoute absolument jamais. Un produit innocent, on n'ajoute jamais de sucre, jamais d'épaississant, jamais de conservateur, jamais de machin chose.
Oui, d'ailleurs, j'ai lu la liste des ingrédients, c'est qu'en fait, c'est que du fruit.
Ah, c'est un produit très peu transformé,
ouais.
Donc on retrouve vraiment ce qu'on a naturellement dans les fruits. C'est ça qui est assez formidable avec ces produits-là, c'est qu'on est très proche des matières premières d'origine.
Et justement, comme on parle des matières premières, est-ce que vous allez vers du bio ? Puisque c'est quand même beaucoup la demande des consommateurs aujourd'hui.
Alors, on a quelques fruits qui sont bio. Néanmoins, ce n'est pas la proposition innocente. C'est-à-dire qu'on a toute une charte. Il faut d'abord avoir des matières premières dans la quantité dont on a besoin, ce qui n'est pas forcément
Donc de saison.
Alors, c'est des produits qui sont toujours cueillis, mûrs, au moment où ils sont disponibles. Et il en faut en quantité suffisante. Deuxièmement, Il faut avoir des chartes d'engagement nutritionnel très fortes, notamment sur tous les fruits ne sont pas égaux. Donc, on va chercher les meilleurs fruits, comme j'indiquais tout à l'heure, à la fois en organoleptie et à la fois en contenu vitamines, fibres, etc. Et puis, on a, avec les fermiers avec lesquels on travaille, des chartes de développement durable extrêmement exigeantes. On protège les communautés qui collectent nos fruits. On les aide également à suivre des études. On protège les champs sur lesquels sont produits nos fruits. Aujourd'hui, 90% de nos fruits répondent à la charte Sustainable Agriculture Initiative, qui est une charte extrêmement exigeante en termes d'agriculture raisonnée. Et ça, c'est pour nous essentiel, pouvoir travailler sur la protection de la nature, protection des communautés. Ça fait partie de nos engagements. Et puis, nos matières premières, comme nos produits finis, ne voyagent jamais en avion. Notre engagement, il est pour la protection du climat, la protection contre le réchauffement climatique. On a des engagements très forts en matière de carbone. Je pense qu'on va en reparler aujourd'hui.
Bien sûr.
Mais ça, c'est absolument essentiel.
Sauf si on trouve un avion à hydrogène qui n'émet pas de carbone. Là, tu pourras l'envisager.
On sera ravis. Il n'y en a pas encore beaucoup.
Il n'y en a pas. Je te rassure, il n'y en a pas. C'est en test. Mais on serait tous ravis d'ailleurs que ça existe. Autre point, pour revenir juste à la saisonnalité, c'est assez intéressant parce que du coup, il y a toujours une même offre. C'est une offre fixe ou est-ce que parfois, tu as des hors-série, mais c'est des éditions limitées parce qu'il y a un fruit. Comme aujourd'hui, on essaye vraiment d'éduquer le consommateur pour consommer local, bio ou pas. Hein, le mieux, c'est local et de saison. Est-ce que aussi, ça va dans ce sens-là? Parce que j'imagine, en plus, comme vous exportez dans différents pays, ce n'est pas les mêmes fruits au même moment, etc.
Alors, on produit tout au même endroit. Donc, en fait, tous nos fruits sont regroupés dans un même endroit. Et globalement, on fait assez peu de séries limitées en tant que telles. Donc, ça peut arriver, mais ça reste encore assez exceptionnel. En revanche, dans notre modèle de développement produit, tout pays peut demander au groupe d'avoir ses propres recettes ou ses propres séries. J'ai un exemple, en France, on l'a arrêté, mais on a eu une gamme de gazpacho. C'est la France qui avait demandé au groupe à avoir cette gamme de produits. Et le groupe, évidemment, a accepté de
l'offrir. C'est la France qui demande ça, ça aurait pu être l'Espagne.
Ça aurait pu être l'Espagne, mais on est encore petit en Espagne.
D'accord.
Ça viendra certainement un jour, ouais. Mais la France fait partie des grands pays du groupe Innocent.
Ok, hyper intéressant. Tu me parlais des engagements carbone, ça m'intéresse aussi. Donc, vous essayez au maximum de limiter les transports, vu que tu m'en as parlé, tous vos fruits sont localisés au même endroit. Enfin, tu voulais regrouper et puis vous faites les jus au même endroit. Donc, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de trajets. Comment est-ce que vous optimisez tout ça?
Bon, d'abord, sur l'engagement d'Innocent, l'engagement carbone, c'est notre obsession, c'est-à-dire le réchauffement climatique, lutter contre le réchauffement climatique.
C'est bien que ce soit l'obsession de tout le monde.
Oui, mais bon,
arrivez à contaminer tout le monde avec cette obsession avec le jus des jus, moi je suis pour. Hein.
On peut avoir l'obsession et ne rien faire. On s'était engagé à la COP à Madrid d'être neutre en carbone en 2030. On a annoncé à la fin de l'année dernière qu'on avançait cet engagement de neutralité carbone à 2025.
COP 1, 2 et 3, hein. On est d'accord.
Scope 1, 2 et 3, et 50% du scope 3, parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Mais les trois scopes, en effet, ce qui est aussi une notion essentielle, parce qu'on entend beaucoup de choses se dire qui ne sont pas toujours, et je te félicite d'avoir cette connaissance, aussi précise en termes d'engagement. Donc, on touche bien les trois scopes, et ce n'est pas évident, parce que quelquefois, on peut...
Bah, le 3, c'est le plus compliqué, soyons
honnêtes.
Absolument.
Honnête, hein. Nous, on parle bien des trois scopes, et cet engagement, il est valable pour 2025. Donc, c'est demain matin.
Ah oui, c'est demain, oui, c'est même ce soir, quoi.
Voilà, donc on a commencé à faire beaucoup de choses dans la matière et on va continuer, on va accélérer parce que c'est vraiment le souci majeur.
Mais j'imagine, pour atteindre cette neutralité carbone, donc là, il y a des émissions, mais vous allez continuer à émettre un minimum, ce qui est normal. Même là, moi, en parlant, j'émets du carbone. Comment vous compensez? Parce que ça passe par la compensation, j'imagine.
Non, mais c'est une très bonne question. En fait, ce serait pas très compliqué s'il s'agissait que de compenser. C'est une histoire d'argent.
Bah, c'est oui.
On achète des certificats, on discute avec...
Des forêts, des abeilles.
Des gens qui peuvent faire, donc ça, c'est pas très intéressant. En fait, nous, on travaille sur les deux. Donc, évidemment, il y a une partie qui est de l'ordre de la compensation, mais on travaille surtout à réduire nos émissions. D'ici 2030, on aura réduit nos émissions, on les aura divisées par deux, et en 2040, on sera en zéro émission. Donc, on est sur un double travail avec à la fois des réductions d'émissions et à la fois des compensations pour le reste.
Et est-ce qu'il n'y aurait même pas possibilité, là je réfléchis un tout haut, de faire de la décarbonation? Est-ce qu'il y a des actions de décarbonation qui seraient envisageables?
Alors, il y a des actions de décarbonation, absolument. Nous, on a pas mal de projets en la matière. On a un projet qui s'appelle Big Rewild en anglais, qui s'appelle la Grande Classe Verte en France, qui consiste à travailler avec un de nos partenaires Bicorp. On parlera peut-être de Bicorp aussi un petit peu plus loin, qui s'appelle Mimosa. Avec eux, on a identifié des projets à l'intérieur de plusieurs pays. On travaille en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Angleterre, etc. Ce sont des projets qui consistent à replanter des forêts ou à préserver des zones forestières pour créer ce qu'on appelle des puits de carbone. Et c'est un projet dans lequel on implique le consommateur, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de communication sur nos packagings avec des QR codes. Le consommateur va sur le QR code et il peut choisir le projet sur lequel Innocent va mettre de l'argent. Le consommateur lui-même peut mettre de l'argent également s'il le souhaite. Toute somme qui est mise par un consommateur est doublée par Innocent. Donc on a 6 projets en cours qu'on finance sur le territoire national et on va continuer en 2023, 2024, etc. Donc ça, c'est un acte de décarbonation. Je pourrais parler de nos campagnes médias aussi. On a un partenaire, on fait de la pub, hein, comme beaucoup de sociétés. On a un partenaire qui s'appelle Mediacom et on a travaillé avec Mediacom pour chiffrer la quantité de carbone que le digital, l'affichage, la radio, la télévision peut dégager. Donc, cette campagne, justement, par exemple, la grande classe verte, elle a un impact de 6,6 milliers de tonnes. Eh bien, on a identifié des projets qui consistent à créer des vergers sur le territoire national. Donc, en plus, il y a un lien avec notre activité sur les fruits. Et on va compenser à peu près 25 000 tonnes, donc beaucoup plus que ce dont on avait besoin. Et finalement, ça va compenser non seulement la campagne en cours sur la grande classe verte, mais également la campagne précédente, les grands petits pas. Donc là aussi, c'est encore de la décarbonation que nous assurons.
C'est hyper intéressant ce que tu me dis là sur, et je trouve ça, et merci pour ta transparence sur les tonnes émises par une campagne. Est-ce que tu ne penses pas, comme le disait le GIEC aussi, qu'il va falloir qu'on soit plus sobre et même dans notre façon de communiquer, peut-être faire moins de campagnes, surtout que pour les marques, pour déjà couper le robinet à la source, même si c'est génial de compenser, et de toute façon, on n'a pas le choix pour le moment. Est-ce que, typiquement, on ne pourrait pas revoir notre façon aussi de communiquer ?
C'est une très bonne question. Alors, moi, je te dirais, j'ai toujours travaillé toute ma carrière dans des univers concurrentiels avec des concurrents. Je crois énormément dans ce modèle innocent qui consiste à développer du business, à redonner une partie de nos profits. On donne 10% de nos profits pour lutter contre la faim dans le monde. On pourra également en parler. Pour travailler nos produits d'une certaine façon, on vient de parler de l'impact carbone, etc. Je crois beaucoup à ce modèle. Pour qu'il fonctionne, il faut qu'on développe notre chiffre d'affaires, nos parts de marché, etc. Donc ça, ça reste quand même une constante, une permanente entre toutes les boîtes qui font des produits de grande consommation et qui ont des concurrents. Donc je dois quand même tenir compte de cette réalité et faire de la publicité. Il y a beaucoup de façons de faire de la publicité, ça reste une nécessité.
Donc en fait, il faudrait presque que chaque secteur se réinvente et que là, ce soit le secteur de la pub qui se charge de décarboner leur campagne pour vous proposer... Enfin, de toute façon, ils rentrent dans vos scopes et réciproquement. Donc je pense que finalement, l'écologie, c'est tout un écosystème et que si tout le monde travaille à réduire et à minimiser son empreinte, c'est comme ça qu'on arrivera collectivement à...
Je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire très bien avec Carbon App et Mediacom. On a fait des très belles campagnes. Je peux citer des marques
bien
ou pas?
Bien sûr, il n'y a aucun
avec
problème.
Avec JC Deco également, où on a fait des abribus qui respirent, etc., qui transforment de la pollution en oxygène.
Ah, j'ai même vu des abribus végétalisés, je ne sais pas si c'est eux.
Si, oui, c'était eux. C'était eux avec
canon,
nous.
Ça, ouais. Ouais,
on a fait ça ensemble. Donc, il y a des idées qui peuvent être mises en œuvre avec les médias, le monde de la publicité, etc. Maintenant, l'autre dimension sur laquelle je voulais insister pour répondre à ta question, c'est la façon dont on parle. C'est-à-dire qu'on peut faire des publicités. Je ne donnerai ici de leçons à personne, mais on peut faire des publicités qui parlent de la supériorité de son produit ou de la supériorité de son emballage. On peut faire des publicités qui sont simplement des publicités d'image, très, très perchées, très oniriques, etc. Et puis, on peut faire de la publicité qui parle de ces réalités-là. Et nous, en fait, aujourd'hui, on a largement basculé dans ce domaine, qui est un domaine un peu risqué parce qu'il est assez facile et assez rapide de se faire attaquer et d'être soupçonné éventuellement de greenwashing ou ce genre de choses. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que le choix d'Innocent aujourd'hui, c'est de lutter contre le réchauffement climatique, c'est d'engager les consommateurs, d'utiliser sa voix pour convaincre les consommateurs qu'il faut bouger les choses. Donc nous, ce dont on parle en pub aujourd'hui, c'est de ces problématiques-là, de ces réalités-là. Et donc, oui, on espère vendre davantage, mais surtout, on essaye d'utiliser cette prise de parole pour transformer l'attitude de nos consommateurs. On pense que, oui, les ONG, oui, le gouvernement, oui, un certain nombre de personnes ont un rôle à jouer, mais les marques elles-mêmes ont ce rôle de transformer les habitudes de consommation et idéalement de se diriger vers les marques qui font le boulot.
Merci pour ta franchise et ta transparence, et je suis entièrement d'accord. Et en plus, la façon dont vous le faites, ludique, fun, c'est pas du tout éco-anxiogène. Et merci parce qu'on en a besoin. On a besoin de rendre l'écologie sexy, fun, et voilà, et accessible. Autre point, et avant qu'on aborde d'autres sujets, j'ai eu beaucoup de questions de mes auditeurs. Vous faites l'unanimité. Tout le monde vous trouve fun, drôle, sympa, etc. Il y a eu la question...
C'est déjà pas mal.
Bah, franchement, c'est ça. Et donc, du coup, il se pose des questions. Il se dit, il y a forcément un loup. Alors, le loup, c'était l'investissement Coca, par Coca. Donc, tu m'en parlais, j'aimerais bien que tu leur expliques aussi, comme tu l'as fait, l'investisseur. Et puis l'autre, est-ce que vous êtes vraiment fun? Voilà.
Alors, aujourd'hui, Innocent est une société qui appartient à la Coca-Cola Company, qui est une société qui possède la plupart des marques du groupe Coca-Cola, qui en assure principalement le marketing. Le siège de la Coca-Cola Company est basé à Atlanta. Alors, comment est-ce que Innocent, qui avait donc été créé par les trois garçons dont on a parlé tout à l'heure, s'est retrouvé dans le giron de Coca? En réalité, c'est une histoire classique de business. La boîte a été créée en 1999, 2008 c'est en France.
Ah oui, d'accord.
Donc voilà, c'est le petit écart, oui. Mais ça reste vrai de toute façon. Elle a été créée en 99, elle s'est développée très vite. Elle a eu, quand il y a eu la crise des subprimes, qui a été une crise mondiale, une crise financière mondiale avec Morgan Stanley et autres, elle a rencontré des difficultés économiques incroyables. Et à ce moment-là, ben, ils n'ont pas beaucoup trouvé de gens pour les aider. Il y avait à l'époque probablement une focalisation plus importante sur les nouvelles technologies, sur d'autres types d'investissements. Et mettre de l'argent dans un business d'épicerie n'était pas forcément ce qu'il y avait de plus attractif pour les banques, pour les investisseurs, etc. Et puis, ils ont rencontré une épaule accueillante, celle du patron de l'Europe de l'Ouest de Coca-Cola, qui s'appelait James Quincy à l'époque. Et ils ont réussi à convaincre James de prendre une participation, dans un premier temps, dans Innocent, de l'ordre de 20%. La vie a repris et un peu plus tard, en fait, le développement international d'Innocent, qui était une boîte anglaise, ils ont vécu un développement international qui a été assez rapide, a imposé des sorties de cash extrêmement importantes. Il faut payer les fruits en avance, il faut payer les capacités industrielles en avance.
Tu m'avais parlé tu as fait la comparaison entre le cash flow et tes fruits.
Le cash flow est un concept que quelquefois les créateurs d'entreprises oublient. C'est l'écart entre l'argent qu'il faut sortir et l'argent qui rentre. Et dans nos business, il est très régulier de sortir l'argent un an et demi, voire deux ans à l'avance, avant que ça commence à rentrer. Donc finalement, plus la courbe de croissance est inclinée vers le haut, et plus les problématiques de cash flow s'accélèrent. Et c'est vraiment ce qu'ils ont connu. Et face à cette deuxième crise, les mêmes causes ayant les mêmes conséquences, ils se sont à nouveau tournés vers Coca-Cola, qui a été au secours d'Innocent et qui a accepté de monter dans le capital. Le point qui est essentiel à ce moment de l'histoire, c'est de comprendre la philosophie des garçons qui avaient créé un business dont ils souhaitaient être fiers et qui ont beaucoup insisté sur, évidemment, eux, comme tout le monde, pouvaient redouter le modèle Coca-Cola, une absorption à U et à Dia et des modes de fonctionnement un peu différents de ceux qu'ils avaient voulu pour la société. Et à nouveau, James Quincy a été absolument clair et leur a dit « Non, mais moi, je n'ai pas du tout l'intention de me mêler de vos affaires. Vous savez mieux le faire que moi. Vous avez fait très belles choses jusqu'à présent. Vous avez un problème de cash. Donc, je vais vous permettre de continuer sur la base de votre modèle. Et ce modèle continue à perdurer aujourd'hui. Les employés innocents ont des contrats innocents. Les sièges sociaux d'innocents sont complètement indépendants. Le site de production est indépendant. Enfin, on vit de manière très indépendante. On est géré comme une participation par le groupe Coca-Cola. Alors, évidemment, on rend des comptes à notre actionnaire. On fixe des objectifs en concertation avec Coca-Cola. Mais on vit complètement sur les principes innocent. Moi, j'ai un contrat innocent, l'ensemble des employés.
Vous avez un ADN de marque unique, en fait. C'est pas...
qui n'a pas changé.
C'est ça.
Depuis le départ, on est sur une mission qui est de faire des petites boissons saines, délicieuses et naturelles pour permettre aux gens et à la planète de vivre vieux. C'est notre ambition et cette mission n'a jamais, jamais été remise en cause. Donc, on reste vraiment sur une philosophie qui est la même. Je te disais tout à l'heure qu'on donne 10% de nos profits pour lutter contre la faim dans le monde. C'est colossal, 10%. Il y a assez peu de boîtes. J'en connais une, mais j'en connais peu au global. Et on continue et c'est en parfait alignement avec notre actionnaire. Donc, je dois dire que pour ce que je connais d'eux, et vraiment, c'est peu de choses parce que je ne vis pas dans leur monde. On n'a pas la vie d'un cadre classique
Bien
et
sûr.
Probablement pas d'un cadre Coca-Cola classique. Parce qu'on vit comme on a toujours vécu.
Innocemment.
Innocemment. On n'a pas modifié non plus nos valeurs. Elles sont toujours les mêmes. Et on est très fiers de ce qu'on fait.
Et tu n'as pas de bureau aussi, tu me racontais.
Je n'ai pas de bureau propre, en effet. Je vis au milieu de tout le monde.
Le PDG, pas comme les autres. Il vit en fait en open space quand on arrive.
Absolument.
C'est génial.
Ouais, je sais même pas. Donc, on a un étage avec tous les bureaux. C'est un open space. Tout le monde est en haut. Moi, je suis en bas.
Qu'est-ce que tu aimerais qu'on aborde? Bicorp, vos engagements, quel est le sujet que tu préférais qu'on aborde?
Écoute, les deux sujets qui me sont vraiment chers, évidemment, il y a toute l'approche sur le réchauffement climatique, parce que même si je crois deviner qu'on commence à avoir une véritable réaction par rapport à ça, c'est sûr qu'on en est encore très très loin. On a, nous, pour participer à nos efforts de décarbonation, on vient de construire l'usine la plus développement durable du monde, qui est un truc complètement incroyable.
Mais vous l'avez réhabilité ou vous l'avez construit ?
On l'a construite.
D'accord.
Et c'est encore une fois la démonstration que les efforts sont possibles. Ça coûte, hein, faut savoir que le développement durable, ça coûte plus cher que de faire des produits de manière traditionnelle.
Bien sûr, à court terme. Normalement, à moyen et long terme, ce sera...
C'est vrai. Et puis, il y a des choses qui peuvent s'accélérer. Par exemple, cette usine, ce n'est pas encore terminé puisqu'elle est en train d'être finalisée, mais ne va fonctionner qu'avec des énergies naturelles renouvelables.
J'allais poser la question. Et du coup, tu ne seras plus dépendant de la crise énergétique, on ne l'aura plus. Si
exactement.
Des panneaux
solaires. Donc, économiquement, et ça va dans le sens de ton point, bien nous, sûr. On avait prévu dès le départ de fonctionner avec un mix panneaux solaires et moulins à vent. Ça coûte cher, mais finalement, avec l'évolution du prix de l'énergie et peut-être la raréfaction, parce que si on n'a plus de pétrole, de gaz, etc.
Et puis, si toi, tu arrives à stocker suffisamment d'énergie et à la redistribuer, tu peux même te
faire
des sous.
Alors, c'est notre cas.
Hein.
En fait, voilà, on a un excédent qu'on va pouvoir redistribuer. Voilà. Et on ne consomme pas d'eau douce, parce qu'on oublie ça, mais l'eau douce, on l'oublie cet été, on s'est rendu compte que tout d'un coup, même un pays comme la France pouvait être à risque de ce point de vue-là. Après, il y a des pays qui ont connu ça un peu plus tôt, comme l'Espagne, qui ont mis des machines à désaliniser en place plus rapidement que nous, mais on va s'y mettre. Eh bien, cette usine, l'eau qu'elle utilise, pas beaucoup d'ailleurs, c'est que de l'eau de pluie, donc on n'est absolument pas connecté sur l'eau publique, on va dire. Et toutes nos machines sont nettoyées avec de l'air pulsé. Et ça aussi, c'est révolutionnaire. Mais il y a plein d'éléments révolutionnaires dans cette usine qui font qu'en effet, on démontre qu'il est possible de faire les choses différemment.
J'ai juste envie d'aborder un dernier point sur le B Corp, parce que c'est intéressant. Nous, alors aux États-Unis, c'est d'ailleurs aussi pour ça, c'est un label que les consommateurs comprennent et connaissent. D'ailleurs, il y a même des rayons B Corp. En France, c'est pas assez démocratisé. On sait pas, nous on est bio, made in France à la rigueur, on comprend. Enfin, je dis nous, moi j'avoue que je connais peut-être un peu plus, mais B Corp, ça parle pas. Pourquoi du coup ce choix de label ? Est-ce que c'est parce que ça vient des States et que du coup vous êtes aligné ?
Je crois pas. Je crois que les gens ne savent même pas que ça vient des États-Unis. Simplement, ils ne le connaissent pas encore suffisamment. Heureusement, il y a de grandes entreprises qui commencent à s'intéresser à ce label.
Dont... Il est intéressant parce que ça crée quand même vraiment un écosystème vertueux.
Aujourd'hui, il y a plus de 3000 B Corp dans le monde. Il y en a de plus en plus. J'ai l'honneur de faire partie du conseil d'administration de B Corp France, B-Lab. Donc, on travaille régulièrement sur les nouvelles sociétés qui nous rejoignent. Il va y en avoir de plus en plus, ça va s'accélérer. Pour bien comprendre, c'est un label qu'on n'obtient pas une fois pour toutes. Tous les 3 ans, il est remis en cause. Donc ça, déjà, c'est pas le bac ou c'est pas... On peut vous l'enlever assez facilement. Si vous faites pas le boulot, vous allez le reperdre. 3 ans plus tard, pour être recertifié, les questions sont encore plus dures. Et le niveau monte en puissance.
Il y a un suivi, je crois bien.
Il y a un suivi. Mmh. C'est vraiment très exigeant. Nous, on a été certifié à 92,5 la première fois, à 105,2 la deuxième. Donc, on a fait un vrai step dans un cadre un peu plus exigeant.
Puis là, la troisième, avec l'usine, je pense que ça va être bien.
Eh bien, c'est l'objectif. Parce que c'est à la fois un label qui, dans l'absolu, est extraordinairement reconnaissant pour les entreprises qui l'obtiennent. Et puis, c'est un label qui fait travailler. Ça donne des guides, ça donne des directions. Et ça, c'est absolument génial. Qu'est-ce que vous faites pour les communautés ? Qu'est-ce que vous faites pour vos employés ? Qu'est-ce que vous faites pour l'environnement ? C'est ça que j'adore avec ce label, c'est qu'il travaille dans tous les sens et il donne des axes de progrès. Il y a des bonnes pratiques qu'on peut prendre chez l'un, chez l'autre. On les partage. Car être B Corp, c'est pas qu'une satisfaction pour soi-même ou pour ses employés. C'est un groupe d'entreprises qui travaillent ensemble pour faire changer le monde et démontrer qu'on peut faire du profit d'une certaine façon. Finalement, pour nous, ça a été une rencontre extrêmement bénéfique à l'époque parce qu'on était un peu convaincus de faire ça. Mais tant qu'on n'a pas un marqueur, tant qu'on n'a pas une façon de vérifier qu'on est dans le juste, on peut complètement se planter. Et d'avoir été, dès le premier coup, et je peux te dire que ce n'est pas forcément automatique, d'avoir été rewardé en ayant la certification dès le premier coup, ça a été un éclat de joie dans la société, ça a été célébré, parce que ça voulait dire on ne s'est pas planté, on a fait les bons choix et on va continuer à progresser.
Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nos auditeurs ? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire ?
Bah écoutez, moi, je vous remercie de m'avoir écouté parce que c'est pas forcément évident de rentrer dans cet univers-là. Je suis rentré chez Innocent il y a 9 ans avec une conviction qui était ancrée au fond de moi-même, qui est qu'il est possible de faire des choses d'une manière différente. J'adore le business, mais j'adore le business quand on le fait autrement, quand on prend soin de l'humain, quand on prend soin de l'environnement, quand on n'est pas simplement tourné vers la maximisation des profits. Et je dois dire que 9 ans après, je suis toujours là et j'ai encore envie de continuer dans cette dimension. C'est pas un discours de circonstance, c'est une réalité. Et voilà, j'espère que j'ai pu partager un peu de mes passions, de mes envies et de mes convictions.
Merci beaucoup et puis on se voit dans 9 ans alors.
Absolument.
Tu seras toujours là.
Je ne décrocherai pas.
Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et proposez-moi des profils aussi intéressants. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.